Bienvenue dans cet épisode des Beaux rôles. Aujourd'hui, on plonge dans un concept essentiel en pédagogie, la taxonomie de Bloom, un outil incontournable pour comprendre la progression des apprentissages. On aimerait tous être experts immédiatement, maîtriser chaque notion du premier coup, mais apprendre, c'est un processus complexe et ça se fait par étapes. La taxonomie de Bloom nous aide justement à visualiser ces étapes en classant les habiletés cognitives des plus simples aux plus complexes et de voir l'apprentissage comme une progression. Notre rôle comme CP nous demande de prendre un certain recul par rapport au contenu, de ne pas se focaliser uniquement sur les savoirs à transmettre, mais plutôt d'être capable de déterminer à quelle habileté cognitive ils font appel. La taxonomie de Bloom devient donc un outil clé dans notre pratique.
Les beaux rôles avec Géraldine Lucier.
Pour discuter du sujet, je retrouve dans le cadre de porte mes deux acolytes CP, Marie-Noëlle Corriveau-Tendlen et Alexandre Dalpa. Bonjour!
Salut!
Bonjour!
La taxonomie de Bloom, depuis quand elle fait partie de ta vie, Marie-Noëlle?
Bien, moi, la taxonomie Bloom, oui, mais même les taxonomies, là, plus généralement, c'est quand j'ai fait mon passage au ministère à travailler sur des programmes d'études. Là, vraiment, on avait les mains dedans, là, je m'étais approprié ça. Comme CP au collégial, c'est avec le chantier sur les plans cadres. Puis j'ai dit chantier, là, c'est le mot est bien choisi, je pense. Là, vraiment, tu sais, Bloom, c'est devenu mon meilleur ami, là.
Ben, c'est sûr que c'est tout un chantier de construction, ton affaire. Hein. C'est gros. Puis, comme tu disais, peut-être voir un chantier de déconstruction pour un CP, c'est pas toujours évident, je trouve, de se retrouver dans une place comme ça en tant que professionnel. De mon côté, en tout cas, le premier lien que j'ai eu avec Bloom et le terrain, c'est arrivé quand j'ai rencontré un prof d'un programme sciences nature, là, un prof de chimie, qui voulait former les petits chimistes nobelisés de demain. Et on sentait qu'il faisait beaucoup d'élitisme plus qu'autre chose. On manquait d'arrimage entre son contenu, entre sa façon d'enseigner, ses méthodes d'enseignement. Puis c'était un vrai cas d'école à analyser ce truc-là. Mais ce que je trouvais le pire, c'est que finalement, on a l'impression qu'il le faisait de façon inconsciente. T'sais? Peut-être par manque de formation ou de temps. Je trouve que c'est ça qui est le plus important pour moi là-dessus. Fait que, quand je forme les profs avec ça, que je leur parle de ce concept-là, j'essaie toujours de prendre un peu l'exemple de la pyramide de Maslow. Hein. Pour moi, c'est comme une pyramide de Maslow pédagogique. T'sais. La base doit être comblée. On doit commencer par des premières étapes. Il faut connaître les affaires, il faut les mémoriser pour ensuite aller plus haut puis améliorer tes apprentissages finalement. Puis c'est sûr que ce concept-là, il peut être vu des fois un peu vieillot, mais en vrai, il n'est pas tant parce qu'il a été repris dernièrement par l'Université de l'État d'Oregon où ils ont été ajoutés l'IA à la taxonomie de Bloom pour essayer de faire sortir ce qu'on appelle les compétences humaines distinctives. Donc c'est super intéressant, puis on se rend compte que c'est encore très valable actuellement. C'est quand même tout un chantier aussi en tant que tel, c'est certain. Mais toi, Géraldine, en tant que jeune CP, finalement, t'as entendu parler de Bloom quand?
En fait, c'était pas comme CP. Je connaissais déjà ça. Wow!
Ah ouais!
Une chose maîtrisée en rentrant. Mais c'est plutôt comme prof. Quand j'ai commencé comme enseignante au collégial, j'ai fait une formation en pédagogie et on a abordé cette taxonomie-là. C'est quelque chose que je connaissais déjà. Puis j'avoue, comme prof, moi, ça a été quand même une révélation là, de comprendre qu'il y avait une genre de hiérarchie de la progression des apprentissages. Que je ne demanderais pas à mes étudiants la même chose si je veux qu'ils m'expliquent quelque chose ou qu'ils créent. Donc, l'activité pédagogique allait être différente.
Oui, c'est sûr.
Pour moi, c'est un concept qui est vraiment, évidemment, très pertinent. C'est un outil qui est clé, je pense, pour être capable de structurer des objectifs d'apprentissage, tant pour nous comme CP quand on accompagne dans les plans cadres, par exemple, ou quand on est avec les profs pour les aider à planifier leurs cours. Ça permet vraiment d'assurer une cohérence là, dans ce qui est demandé aux étudiants. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de garder un regard plus objectif sur ses choix pédagogiques.
Ouais, effectivement, c'est vrai. Moi, je pense que Bloom est vraiment utile pour, comme tu dis, d'assurer une cohérence entre les objectifs du cours et puis ce qui va être fait en classe, finalement. Par exemple, un cours de première session ne devrait pas demander aux étudiants qui sont en plein processus de formation, ils débutent, ils découvrent, on ne peut pas leur demander de créer un projet ou d'évaluer une situation professionnelle spécifique. Il faut quand même qu'ils passent par l'acquisition des concepts de base, qu'ils mémorisent des éléments, une terminologie particulière au cours. Et ensuite, ils vont gravir les échelons puis aller vers des tâches beaucoup plus complexes, ce qui devrait arriver finalement dans les dernières sessions d'un programme.
Mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre, avec toi aussi, Géraldine, là, tu l'as mentionné, la progression des apprentissages. T'sais, la taxonomie, elle doit nous permettre, je pense, là, d'assurer qu'on la respecte, cette progression des apprentissages-là, pour nos étudiantes, nos étudiants, dans un cours, mais aussi entre les cours, entre chacune des séances qu'on va leur proposer, dans les séquences d'apprentissage sur le programme au complet. Là, finalement, il y a vraiment cette idée de progression du début à la fin. Bref, la progression, je dirais qu'elle nous permet de nous assurer qu'on ne va pas sauter une marche ou deux avec nos étudiants.
Ce qui pourrait faire très mal, effectivement.
Effectivement. Ouais, c'est
ça. Donc, c'est un outil qui facilite l'accompagnement en offrant là, des balises, des points de repère. je trouve que c'est un concept qui est quand même assez simple à comprendre. Moi, je sens qu'il n'y a pas vraiment de résistance quand j'accompagne des profs puis j'utilise la taxonomie de Bloom. Par contre, c'est quand même un défi pour les profs, surtout quand ils débutent, qui sont très, très, très collés sur leur contenu. Bien, des fois, ils n'ont pas le pas de recul pour se questionner sur bien, comment je veux que mes étudiants progressent dans leur apprentissage. Bien, pour vous, c'est quoi les défis que vous pouvez rencontrer lors de vos accompagnements, Alexandre?
Bien, je pense que tu le résumes bien. C'est un peu des fois les certains enseignants qui ont la tête dans le guidon, qui ne la relèvent pas pendant la session. Puis moi, en tant que neuroscientifique de formation, je trouve que la taxonomie de Bloom a vraiment le mérite de nommer puis de différencier les différentes étapes cognitives qui sont liés à chaque niveau d'apprentissage. Et finalement, ça t'évite le pêle-mêle des différentes activités quand tu dois, par exemple, mémoriser des éléments de cours, puis en même temps, on te demande d'analyser tout ça, ce qui est impossible.
Non, exact. Si tu proposes une évaluation, par exemple, d'analyse, mais après une activité qui sollicite uniquement la mémorisation, il y a comme un décalage entre les deux. Si je demande à mes étudiants, mes étudiantes, de m'écouter dans un exposé magistral, puis qu'après ça, ben, je leur demande de faire des liens, j'ai beau avoir fait des liens pour eux, ils ne l'ont pas pratiqué.
Non, c'est sûr.
De la même façon que, par exemple, je regarde Ricardo faire une recette à la télévision, je mémorise les ingrédients, je mémorise les étapes, mais est-ce que je suis une aussi bonne cuisinière que lui?
C'est une très bonne question, ça. Moi, perso, je peux te dire que je ne peux pas te garantir que je serai aussi bon que lui. Tu sais, j'essaye toujours de reproduire ses affaires, mais entre sa photo et mon résultat final, c'est jamais un succès.
On comprend qu'il faut mettre la main à la pâte, donc il faut être dans l'action.
Tout à fait.
Merci Alexandre, merci Marie-Noël.
Merci.
Toujours un plaisir de jaser avec vous. À bientôt.
À bientôt.
Je reçois Judith Quentin, directrice du Bureau d'appui et d'innovation pédagogique à Polytechnique Montréal. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement, elle a occupé les rôles de chargée de cours et de conseillère pédagogique. Et quand vient le temps de se ressourcer, elle part chaque année pour une longue randonnée de plusieurs semaines. Bonjour Judith.
Bonjour Géraldine.
C'est une belle activité.
Oui, hein? Ça fait du bien une fois par année se vider la tête, là, embrasser des arbres, se coucher dans l'herbe. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour moi.
J'approuve. Pour commencer, c'est quoi la pertinence de parler de Bloom encore aujourd'hui?
Géraldine, dans ta question, c'est intéressant parce qu'il y a la locution « encore aujourd'hui » qui pourrait nous laisser sous-entendre que c'est passé date. Mm-hmm. Bon, bien que la version initiale a été écrite à la fin des années 50, puis qu'aujourd'hui, on parle de compétences, hein, mais une compétence, tu sais, c'est un savoir-agir complexe qui combine des ressources internes et externes dans une situation de type professionnalisante. Donc, ta question est intéressante. Mais moi, quand je parle de la taxonomie des processus cognitifs, je parle plutôt de la version de 2001 là, de Henderson et Crathwohl. Est-ce que tu connais cette version-là?
Oui, c'est celle que j'utilise aussi.
Bon, parfait. Donc, en fait, cette mise à jour-là, en 2001, inclut des connaissances factuelles, conceptuelles, procédurales, métacognitives. Donc, ça comprend pas mal les ingrédients d'une compétence. Donc, moi, je me sens vraiment légitimée de travailler avec cette taxonomie-là. Puis moi, Géraldine, là, j'irais même plus loin. Si j'avais un seul concept à montrer à de nouvelles personnes enseignantes, ça serait celui-là, parce que je le trouve extrêmement versatile.
Puis concrètement, comment on fait pour intégrer la taxonomie dans notre pratique comme CP?
Bien, en fait, c'est ça. La taxonomie, en fait, elle permet à un CP d'accompagner une personne enseignante dans plusieurs capacités que cette personne-là doit déployer. C'est-à-dire que si une personne enseignante veut apprendre à construire des objectifs d'apprentissage ou des cibles d'apprentissage, c'est sûr que la taxonomie des processus cognitifs, c'est un outil de choix.
Okay.
Si la personne veut apprendre à questionner une équipe d'étudiants qui sont en panne, pour moi, la taxonomie des processus cognitifs, c'est un outil de choix. C'est-à-dire que parfois, quand un étudiant est en panne, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est pris dans son banc de neige, bien, on va prendre la taxonomie des processus cognitifs puis on va y aller, par exemple, avec des questions de niveau croissant ou des questions de niveau décroissant. Puis là, on va voir qu'est-ce que la personne étudiante est capable de faire par elle-même. Puis, on va pouvoir, dès lors, identifier quel est son prochain pas qu'elle pourra faire avec notre accompagnement, mais on va savoir quel est son prochain pas naturel. Donc, tu sais, quand on parle de zone de développement proximal de Vygotsky, c'est bien fin, ce concept-là, mais comment on le met en application? Moi, je me sers de la taxonomie pour le mettre en application.
OK, très
même
intéressant.
Même si c'est une hérésie dans notre domaine.
Judith, en quoi la taxonomie peut nous aider à se donner une vision commune là, en termes de développement de programme?
Bien, la taxonomie des processus cognitifs, c'est facile à montrer. C'est international.
Okay.
Donc, que t'ailles en Afrique, en Asie, en Turquie, n'importe où, tout le monde connaît la taxonomie de Bloom. Donc, ça peut être un excellent point de départ pour se donner un langage commun. Et puis, quand on accompagne des profs spécifiquement dans le milieu universitaire, c'est peut-être un peu différent des autres milieux. Quand on travaille en formation générale des jeunes, donc au primaire, au secondaire et même au niveau collégial, les personnes enseignantes vont recevoir un programme qui provient du ministère et qui comprend les cibles d'apprentissage. Parfois même la progression des apprentissages et parfois même les cibles d'évaluation. Donc, il y a tout un travail qui est déjà fait au niveau de la conception de l'enseignement et de l'apprentissage. Par contre, quand on travaille en milieu universitaire, tout ça est à créer à partir de zéro avec des profs qui n'ont pas de formation de base en enseignement. Pour moi, la taxonomie des processus cognitifs, c'est quelque chose qu'on peut griffonner sur la table, montrer rapidement à des personnes pour qu'on puisse s'en servir rapidement comme outil de travail. Donc, c'est avec ça qu'on travaille pour créer des cibles d'apprentissage, créer des activités d'évaluation qui sont cohérentes avec nos cibles, donc qui vont mesurer vraiment qu'est-ce qu'on veut mesurer, puis qui nous permettent aussi de prévoir des activités qui vont se passer en classe qui sont de même niveau taxonomique, voire peut-être un peu plus élevé, puis qui vont permettre aux étudiants, aux personnes étudiantes d'atteindre le niveau ciblé. Donc, pour moi, c'est un bon outil de travail avec des groupes de profs là, qui ont un travail de conception pédagogique commun à faire.
C'est un outil qui, c'est ça, qui est quand même assez simple à utiliser. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour le développement des cours? J'imagine que oui.
Oui, tout à fait. Puis pour moi, c'est ça. Donc, on peut l'utiliser pour le développement d'un programme, pour le développement d'un cours qui va durer tout un trimestre, puis voire même le développement d'une séance de cours.
Okay.
Parce que la taxonomie nous permet de faire cet alignement pédagogique-là, donc de se doter de cibles pour le trimestre, de se doter de cibles pour le programme, mais aussi de se doter de cibles pour notre séance de 3 heures.
Okay.
Donc, à la fin de ma séance de 3 heures, qu'est-ce que je veux que les personnes étudiantes soient capables de faire? Je cible ma cible. Je me permets aussi d'insérer dans ma séance des moments de vérification, donc des questions de niveau taxonomique cohérent avec ma cible d'apprentissage, au cours desquelles je vais vérifier si les étudiants sont vraiment en train de prendre le bateau que j'ai prévu pour eux, puis aussi de prévoir des activités d'apprentissage cohérentes. Donc, pour moi, c'est un outil de travail extrêmement puissant pour construire un programme, un cours qui va durer un trimestre et une séance de cours.
Puis, est-ce que c'est la taxonomie de Bloom qui est vraiment le meilleur outil pour s'assurer que l'évaluation est en concordance avec les objectifs?
Bien, ma réponse courte, c'est oui, là,
c'est parce que
c'est une taxonomie qui est extrêmement simple, mais il y en a d'autres taxonomies. Okay. C'est cette vérification-là de l'alignement pédagogique est extrêmement importante pour un conseiller pédagogique parce que souvent, quand l'alignement n'est pas présent, il va y avoir des insatisfactions. Les étudiants vont se plaindre. Ils vont dire que les activités d'évaluation étaient beaucoup trop difficiles. C'est pas ça qu'on nous a montré pendant tout le trimestre. Donc, c'est sûr que cet alignement pédagogique-là, c'est une préoccupation constante pour les conseillers pédagogiques. Fait que ça nous prend un outil. Donc, tu sais, dans le milieu de la construction, quand on veut vérifier que le frigo est à niveau avec le plancher, ben on va utiliser un niveau. Mais le niveau ou l'outil de travail du conseiller pédagogique, pour moi, c'est la taxonomie des processus cognitifs ou toute autre taxonomie pertinente, mais ça nous prend un outil.
J'aime bien cette métaphore. Ça va être quoi le principal obstacle à l'utilisation de la taxonomie de Bloom pour les CP, d'après toi?
Bien, en fait, obstacle, voire même danger, c'est d'y aller de façon très superficielle avec une liste de verbes. Okay. Hein, quand on va commencer à s'approprier la taxonomie des processus cognitifs ou quand on va vouloir la montrer au prof, souvent, on va chercher la meilleure liste de verbes possible, la liste de verbes la plus exhaustive, puis on va se fier sur cet outil-là pour travailler. Mais pour vraiment maîtriser en profondeur la taxonomie des processus cognitifs, on doit se taper le bouquin de Henderson et Crutwell, à tout le moins les 109 premières pages, pour vraiment comprendre quelle est la nature profonde de chacun des niveaux taxonomiques. Pour bien comprendre, par exemple, quand on arrive au milieu collégial et universitaire, on va commencer à demander aux étudiants d'analyser des situations. Mais quand on donne cette consigne-là d'analyse, qu'est-ce qu'on veut dire? La taxonomie, quand on la maîtrise en profondeur, on va être capable de vraiment décortiquer qu'est-ce que c'est que ce processus-là d'analyse. Quand on va parler de pensée critique, quand on va parler de créativité, si on comprend bien puis qu'on maîtrise bien cet outil de travail-là, on va être capable d'accompagner un prof à bien montrer à ses étudiants, qu'est-ce qui l'attend par là? Parce que moi, par exemple, quand j'étais au doctorat puis que mon directeur me disait, Judith, il faut problématiser.
Oh.
Bien là, problématiser, c'est quoi ça, problématiser? Donc, il y a comme toute une séquence de gestes cognitifs sous-jacents qui sont implicites, qu'on peut expliciter grâce à la grande maîtrise de la taxonomie, notamment de celle des processus cognitifs.
Ça va au-delà de juste une liste de verbes. Là. Donc, il faut vraiment se les approprier puis comprendre ce qu'il y a derrière ça. Là.
Absolument, absolument, oui.
Donc, quel conseil donnerais-tu à un nouveau CP qui souhaite aider les professeurs à utiliser la taxonomie de Bloom dans leurs cours?
Bien, un nouveau CP va vouloir rapidement se doter d'une certaine crédibilité auprès des personnes avec qui il travaille. Hein. Donc, pour moi, pour être crédible, il n'y a pas d'autre chemin que de se taper les 109 premières pages du bouquin de Henderson et Crapole. Puis, ensuite, peut-être se former un cercle de lecture avec d'autres collègues qui ont le goût de se lancer dans la maîtrise de cette expertise-là aussi. Puis peut-être aussi prendre des plans de cours existants qui circulent actuellement dans notre institution pour vérifier l'alignement pédagogique ou l'impression que ça nous donne juste en regardant le papier. Puis après ça, discuter ensemble ça, est-ce que c'est dans tel niveau taxonomique, est-ce que c'est dans tel autre niveau taxonomique. Donc, vérifier l'alignement pédagogique d'un plan de cours existant.
C'est pratiquer en fait.
Oui, oui, c'est ça, jouer avec puis en discuter.
Pour un nouveau CP, il pourrait être tentant d'utiliser l'intelligence artificielle pour certaines des tâches de niveau un peu plus bas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
Mais en fait, il faut faire très attention, hein, parce que quand on connaît ou qu'on maîtrise la taxonomie des processus cognitifs, on comprend que les tâches de bas niveau sont essentielles à une bonne performance dans les tâches de haut niveau. Donc, mémoriser de l'information, même si ça a l'air un peu bête pour un CP, c'est essentiel pour ensuite être capable d'analyser des situations avec un concept puis d'être capable d'être créatif dans l'utilisation de ce concept-là. Donc, si on confie à l'intelligence artificielle des tâches de bas niveau, pour moi, il faut lui confier des tâches qu'on maîtrise sur le bout des doigts pour éviter de tomber dans ce piège-là.
Juste pour sauver du temps en bout de ligne, mais sinon, c'est parce qu'on les maîtrise.
C'est ça. Donc, c'est comme si on accueillait un bon stagiaire là, puis qu'on lui disait, là, toi, là, moi, je connais très bien cet élément-là, donc je te le confie, puis je m'en remets entre tes mains. Puis ça nous permet ensuite d'avoir un bon jugement critique sur la performance de l'intelligence artificielle.
Donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un concept de base dans le monde de l'enseignement. Donc, un CP se doit de bien maîtriser ce concept-là. Je vais prendre ton conseil. Je vais lire les 109 premières pages du livre. Merci beaucoup, Judith.
Merci, Géraldine. Ça a été un plaisir et bon courage dans ta lecture.
Merci.
La série balado « Les beaux rôles » est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lussier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendlen. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.